Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Cette action, menée continuellement depuis 2012, porte ses fruits. L'État islamique est affaibli au Levant. Il recule même s'il occupe encore des territoires et même s'il se livre encore à des massacres effroyables.
Voilà, c'était ce matin le discours annuel du président de la République aux ambassadeurs français. Un rendez-vous classique de la rentrée qui permet au chef de l'État français de tracer les grandes lignes de la politique étrangère. Au menu de ce discours d'une heure, la lutte contre l'EI, elle progresse, vous l'avez entendu. Mais l'EI prospère au-delà des frontières syriennes, a rappelé le chef de l'État. Le Brexit, tout doit être conclu d'ici 2019. L'Ukraine, où le risque d'escalade est élevé. Le difficile passage de la promesse aux actes après la COP21, et puis les négociations sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, le fameux TAFTA.
La négociation s'est enlisée, les positions n'ont pas été respectées, le déséquilibre est évident. Le mieux, c'est que nous en fassions lucidement le constat, et plutôt que de prolonger une discussion qui, sur ses bases, ne peut pas aboutir, mieux vaut faire en sorte que nous puissions avertir les uns et les autres que la France ne pourra pas approuver un accord qui aura été ainsi préparé.
C'est donc par une annonce forte que François Hollande a débuté ce discours, la demande d'un arrêt des négociations sur le TAFTA, sans doute une envie de montrer que la France peut encore avoir une voix dans un monde où les défis sont de taille, terrorisme, guerre en Syrie, Ukraine ou encore Brexit. Alors la diplomatie française est-elle efficace? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Manuel Lafont-Rapnouille, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien diplomate, vous avez notamment occupé des fonctions au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade de France à Washington. Et vous êtes aujourd'hui le directeur du bureau de Paris du European Council of Foreign Relations, le CFR, un think tank pan-européen qui promeut l'idée d'une politique étrangère de l'Europe qui soit efficace. Thomas Gomard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de développement stratégique de l'Institut français des relations internationales, c'est un peu plus facile à prononcer.
Non, je suis le directeur de l'IFRI depuis avril 2015.
Eh ben, c'est encore plus facile. Merci beaucoup d'être avec nous. Manuel Lafont-Rapnouille, François Hollande a donc prononcé ce matin le dernier discours aux ambassadeurs de son quinquennat, un quinquennat marqué par des actions fortes de la France sur le plan diplomatique en Ukraine, en Iran, aussi par des échecs, le dossier syrien évidemment, des crises de taille, le Brexit, la crise des réfugiés. Quel bilan vous tirez de la diplomatie sous la présidence Hollande? Est-ce qu'elle a tenu son rang, comme on dit souvent?
Je pense que ce qui reste en premier lieu quand on pense à la politique étrangère de François Hollande, c'est l'engagement militaire qui a été très actif et souvent la France seule et pas en coalition comme habituellement d'autres le font. Et donc c'est surtout ça qui marque. Ce qui est important, c'est de voir que justement il y a un aspect diplomatique à côté et en complément de cet aspect militaire, qui n'est pas du tout anodin. La crise en Ukraine, il n'y a pas d'engagement militaire, mais il y a un engagement très fort de la France avec l'Allemagne pour essayer de trouver une solution avec les Ukrainiens et les Russes. Les négociations sur l'Iran, c'était aussi vraiment un aspect diplomatique. La conférence de Paris sur le climat, la COP21, c'était aussi très diplomatique. Et pourtant, ce qui reste, c'est vraiment cet engagement militaire ou la dimension militaire, y compris sur donc le Mali, la Centrafrique, mais aussi la Syrie avec ses hésitations.
Donc vous dites que ce n'est pas ce qui reste, ça veut dire que pour vous c'est moins important, moins réussi.
Ce qui me paraît frappant, c'est que ce qui reste, c'est la partie militaire et sécuritaire, c'est aussi lié au contexte international. Mais ça pointe aussi un biais, je pense, dans la politique étrangère de François Hollande, avec peut-être une moindre importance attachée aux aspects purement diplomatiques. Et une des choses sur lesquelles on travaille à l'ECFR, c'est notamment, vous l'avez dit, la politique étrangère de l'Europe. Je pense qu'une des choses qui manque de façon assez frappante, c'est la dimension européenne de cette politique étrangère et de cette diplomatie.
Thomas Gomard, votre regard sur ces quatre années et quelques mois, est-ce que la diplomatie François Hollande a été efficace pour reprendre l'intitulé de l'émission?
Elle est efficace sur certains dossiers. Je rejoindrai Manuel sur l'importance centrale des interventions militaires. Pour moi, ce qui définit le plus, au fond, la politique étrangère française, c'est maintenant sa proximité avec la politique de sécurité. Alors, ce sont toujours des liaisons dangereuses entre politique étrangère et politique de sécurité, la seconde devant être subordonnée à la première en principe, mais en réalité on observe que avec les attaques terroristes, avec les exportations d'armes, on a parfois au fond une politique de sécurité qui peut-être prend le pas sur la politique étrangère. Pour moi, ce qui définit ces années, c'est le fait que la France se considère, par la voix de François Hollande, en guerre. C'est maintenant le registre dans lequel elle élabore sa politique étrangère, et c'est pour moi le cadre principal qui marque au fond les années Hollande. À partir de là, effectivement, il y a un certain nombre d'angles morts aujourd'hui. Je pense que le principal, c'est au fond la situation en Europe, avec un projet européen qui fait l'objet de beaucoup d'interrogations, accentuées par le Brexit, et une asymétrie avec l'Allemagne qui n'a cessé de s'accentuer sous François Hollande. Donc, pour résumer, si vous voulez...
Sur par exemple, la crise des réfugiés, sur le Brexit aussi, oui, on sent bien qu'on n'est pas sur le même...
Il y a cet aspect-là, mais si vous voulez, je pense que c'est plus profond, c'est une asymétrie tout simplement de potentiel. C'est-à-dire que pour dire les choses rapidement, aux yeux des Allemands, la France a décroché ou est en train de décrocher. Et donc, ça modifie complètement les équilibres au sein de l'Union européenne et ça entretient une illusion uniquement en France d'un couple franco-allemand qui n'est plus du tout, je dirais, le paradigme utilisé à Berlin.
Alors justement, vous nous dites là, l'Allemagne qui voit une France qui serait en train de décrocher, vous la qualifieriez comment, la France, sur le plan diplomatique, puissance moyenne, puissance régionale, grande puissance encore, parce que Conseil de sécurité, membre permanent.
Les Américains ont une expression qui est de savoir si on boxe dans sa catégorie ou dans la catégorie du dessus. Une des choses qui est frappante avec la France, c'est que ça fait longtemps qu'elle boxe manifestement dans la catégorie du dessus. Elle essaye de s'inviter dans une catégorie de poids qui, a priori, n'est pas la sienne. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce débat depuis des années, voire des décennies, de savoir si la France est une grande puissance ou une puissance moyenne. Ce qui est frappant, c'est la constante volonté des chefs de l'État, des ministres des Affaires étrangères, d'essayer de maintenir une présence, une activité, de prendre des initiatives sur tout un tas de sujets et sur un éventail de zones géographiques extrêmement larges.
C'est comme ça qu'on peut lire, par exemple, la volonté française de relancer les discussions israélo-palestiniennes.
Exactement. Et on voit bien, je disais tout à l'heure que c'est extrêmement... ce qui me frappe le plus en termes de manque dans la politique étrangère du président de la République, c'est la dimension européenne. Mais on voit bien typiquement sur le Proche-Orient qu'effectivement, on est très seul face aux autres européens pour essayer d'avancer vers un règlement et pas juste considérer qu'on peut déléguer la gestion de ce dossier aux États-Unis.
Thomas Gomard, vous êtes d'accord? La France boxe au-dessus de sa catégorie?
En termes de dénomination, on parle, pour reprendre la formule de Laurent Fabius, d'une puissance d'influence, une puissance moyenne, mais qui a une capacité de projection globale, en particulier grâce à son outil militaire, mais surtout grâce à deux attributs qui sont un peu surjoués en réalité, qui sont le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et l'arme nucléaire. Et je serais tenté de dire que, au fond, plus la portée de la politique étrangère française diminue, plus on a tendance à se cramponner à ces deux attributs. Donc on est effectivement dans une situation avec un décalage relativement important entre les ambitions affichées par la France et les moyens dont elle dispose. Et ces moyens, c'est, je dirais, par rapport à ce qui est disponible, c'est assez remarquable, ce qui est produit par l'appareil diplomatique français, par l'appareil militaire. Je rappelle que le budget du Quai d'Orsay, c'est 1% par exemple du budget de l'État. Donc ce sont des moyens très limités.
Et en plus, c'est un budget qui a été restreint.
Voilà. Donc si vous voulez, par rapport aux moyens mobilisés, les résultats ne sont pas du tout... sont très honorables. En revanche, il y a dans le discours, à mon avis, plutôt je vais le formuler différemment, il y a un décalage manifeste entre les mots et les choses, parfois. C'est-à-dire qu'on a une projection ou une volonté globale et en réalité avec des moyens qui sont les moyens d'une puissance moyenne.
Alors, je voudrais par exemple qu'on essaie de donner un exemple de ce que peut être l'influence française sur un gros dossier. Alors, parlons du dossier syrien. Je rappelle qu'en août 2003, après une attaque chimique, François Hollande avait été prêt à bombarder des positions de Bachar al-Assad en Syrie. Elle a été, la France, lâchée au dernier moment par les États-Unis, la Grande-Bretagne aussi. Elle a donc renoncé et perdu, selon les observateurs, son statut d'acteur dans la crise syrienne. Aujourd'hui, François Hollande plaide pour un retour à la table des négociations. ans pour une résolution de l'ONU. Et à ce sujet, Jean-Marc Ayrault, l'actuel chef de la diplomatie française, a expliqué au journal Le Monde qu'il fallait, je cite, « créer un rapport de force politique et morale » et que la France pouvait, de ce point de vue-là, y contribuer de façon significative. Alors, Manuel Lafont-Rapnouille, ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui, que la France peut contribuer de façon significative à la création d'un rapport de force politique et morale?
Ça veut dire qu'on arrive au moment où on se rend compte qu'on ne peut pas avoir une solution et décréter et la mettre en œuvre. La crise syrienne, c'est la limite de la volonté. En fait, sur cette histoire de puissance moyenne ou pas, la puissance, c'est pas juste les ressources, le budget du Quai d'Orsay, l'outil de défense, mais des tas d'autres choses aussi. C'est aussi la volonté qu'on a de l'utiliser et d'en faire quelque chose. Et c'est là où la France se distingue un peu de pays qui pourraient avoir le même potentiel. Mais quel que soit son potentiel et quelle que soit la volonté qu'on a, il y a des situations face auxquelles il est extrêmement difficile de faire face. Et clairement, la Syrie est devenue une des crises les plus complexes, les plus dures. La France ne peut pas admettre, c'est compliqué, y compris pour des raisons de politique intérieure, qu'on est face à une crise face à laquelle on ne peut rien faire et que donc il ne faut rien faire. C'est d'autant plus compliqué.
Mais on a quand même la sensation que la France a perdu un statut qu'elle avait dans la crise syrienne, en tout cas au départ.
Si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur statut dans la crise syrienne. C'est ça qui est fascinant dans cette crise. Vous avez des acteurs locaux qui ont des parrains internationaux et assez régulièrement, vous pouvez regarder la situation en vous disant que c'est les acteurs locaux qui tiennent par la barbichette leurs parrains plutôt que l'inverse. Il y a une dynamique locale qui est beaucoup plus compliquée que ce que la plupart des politiques étrangères et des diplomaties sont capables de gérer, France ou pas France.
Thomas Gomard, vous êtes d'ailleurs d'accord, la France ne peut pas jouer un rôle en Syrie important aujourd'hui, c'est trop compliqué?
Oui et non. Oui, dans le sens où je rejoindrai Emmanuel pour dire qu'il y a une très grande complexité. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise syrienne. Enfin, faut remonter très en arrière à l'assassinat de Hariri, la position de Jacques Chirac par rapport à Faisal Assad, l'invitation faite à Bachar el-Assad par le président Sarkozy. Donc, on a un héritage, si vous voulez, qui est extrêmement lourd, en fait, dans cette relation. Là où j'aurais une approche différente de celle de Manuel, c'est qu'il y a, à mon avis, une erreur d'analyse sur le rapport de force réelle sur le terrain de la part de la diplomatie française et le fait qu'on observe au fond deux choses qui à mon avis ont peut-être été difficiles à anticiper, c'est d'une part le rôle de la Russie qui est intervenue très massivement à partir de septembre 2015 et qui a modifié le rapport de force sur le terrain. Et
qui puis a remis en selle la Syrie.
Qui a sauvé le régime, sauvé au sens où maintenu Bachar el-Assad en place, avec également le soutien de Téhéran. Et puis le deuxième élément, c'était ce soutien à l'opposition dite modérée. Or, on est face à une opposition à Bachar el-Assad qui est en train de s'islamiser, je dirais, de manière très, très visible. Et ça a évidemment créé une difficulté.
Ça a rendu difficile la position française.
Et la perspective d'apporter une sorte de solution politique. Et je crois que la conséquence de ces deux éléments, c'est depuis, malheureusement, l'été 2015, une forme de marginalisation de la position de Paris dans le processus actuel qui, si on se place du point de vue des acteurs extérieurs, on sent qu'on est dans une discussion assez directe maintenant entre Moscou et Washington.
Alors, est-ce qu'on peut pas...
Deux points là-dessus. D'abord, il y a effectivement une marginalisation de la France par rapport au processus actuel, si par processus on entend les discussions entre les Russes et les Américains, qui sont le cœur de l'activité diplomatique internationale sur la crise syrienne. Simplement, ce processus, il mène nulle part. Donc, c'est une marginalisation par rapport à un processus dont on peut se demander à quoi il sert et s'il a vraiment prise sur la situation et s'il a vraiment une volonté de favoriser un règlement. Et plus profondément, je ne crois pas que la France ne puisse pas tenir un rôle. Je pense qu'il y a un espèce de passage qui n'a pas commencé aujourd'hui, d'une idée où on va essayer de régler la crise par une percée, par un sursaut, par une réussite, une initiative, à la constatation que la guerre en Syrie
les
est manifestement là pour durer. On ne va pas pouvoir trouver une solution diplomatique ou une solution militaire, ni entre les rapports de force entre les grandes puissances, ni entre les rapports de force entre les acteurs locaux. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe, et on n'a pas assez de prise sur la situation. Et donc, on a besoin de construire quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps, et beaucoup trop de temps, non seulement au regard de la situation humanitaire sur place, mais aussi, y compris par rapport à nos intérêts et je pense que la principale préoccupation des autorités françaises, c'est la menace terroriste. Évidemment, c'est extrêmement compliqué de dire on va mettre du temps à régler la crise en Syrie si on pense que la crise en Syrie est au cœur de ce qui nourrit la menace terroriste contre nos intérêts et contre notre territoire.
Est-ce que finalement, ce qui se passe en Syrie, c'est pas l'illustration d'un monde qui est beaucoup plus multipolaire qu'avant et qui expliquerait aussi ce décrochage dont vous parliez, Thomas Gomard, enfin qui était perçu par l'Allemagne. Mais est-ce que la France, elle n'a pas perdu de l'influence aussi parce qu'il y a beaucoup plus de puissance qu'avant?
Oui, alors sur le décrochage, pour être sûr de m'être fait comprendre, je parle du décrochage économique, c'est-à-dire que ça, c'est un aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité d'une politique étrangère s'il n'y a pas un minimum de crédibilité économique. Et que globalement, aussi on peut le déplorer, mais la place de la France en termes économiques dans le monde diminue, et donc ça a évidemment des influences directes sur sa capacité
d'influence. Et pourtant, la diplomatie économique, c'était aussi l'un des axes de ce quinquennat. Laurent Fabius s'en est fait le porte-voix.
Oui, bien sûr, mais c'est effectivement quelque chose là aussi qu'il faut souligner, qui était une des priorités. Il faut observer aussi que la diplomatie économique n'empêche pas le creusement du commerce extérieur, si vous voulez. Donc on peut aussi se dire, ça aurait été pire sans la diplomatie économique, mais je pense que le problème fondamental, c'est celui de l'état de l'appareil de production français aujourd'hui dans son rapport à l'Allemagne. Alors maintenant, pour aller sur votre question sur la Syrie, la grande, à mon avis, modification, c'est que précisément les acteurs locaux sont de plus en plus là des interventions extérieures. C'est ça, à mon avis, qui est le principal élément de changement et dispose, au fond, d'une capacité d'action probablement supplémentaire par rapport à ce qu'on pouvait observer, évidemment sous la guerre froide, mais même pendant les années 90. Donc on est, au fond, face à une multiplication des acteurs et d'acteurs qui ont des potentiels différents.
Manuel Lafont, rappelez-vous peut-être une réaction, ou bien sur cet aspect, on ne peut être crédible diplomatiquement que si on l'est aussi économiquement.
Alors, je suis tout à fait d'accord. On a besoin du potentiel. Le potentiel ne suffit pas. Il faut avoir une volonté, un outil pour en faire quelque chose. Mais clairement, il y a un sujet, et notamment effectivement en Europe et dans le rapport de la France avec ses partenaires européens, sur sa crédibilité. Le problème de crédibilité de la France, il n'est pas juste par rapport à l'Allemagne, il est aussi par rapport aux autres partenaires européens qui voient l'Allemagne différemment, vu ce décrochage ou ce possible décrochage entre la France et l'Allemagne. Sur la multiplication des acteurs, en fait, traditionnellement, la France s'est sentie très à l'aise diplomatiquement dans un monde où il y avait deux blocs, parce qu'elle essayait de naviguer entre les deux. Mais d'une certaine manière, ça lui donnait un positionnement particulier, et ça participait de son influence et de l'intérêt qu'on lui portait. Mais ça lui donnait pas non plus forcément un poids formidable. Dans un monde où on a besoin de beaucoup d'acteurs, parce qu'un acteur seul peut pas faire quelque chose, un pays comme la France, qui a à la fois la volonté et la capacité de contribuer de façon significative, que ça soit diplomatiquement, sur le plan militaire ou avec d'autres atouts, elle peut essayer de tirer son épingle du jeu. Encore faut-il qu'elle apprenne justement à être aussi efficace que possible dans ce jeu collectif. Et je reviens à ce que je disais au début, notamment je pense qu'il y a un premier levier pour la France, qui est le levier européen, qui est la priorité, à mon sens, pour les années qui viennent.
Je voudrais qu'on dise un mot peut-être, Thomas Gomard, de l'aspect économique dont vous parliez tout à l'heure, donc un budget qui ne représente qu'un pour cent du budget de l'État aujourd'hui pour le MAE. Il y a eu des coupes budgétaires, il y a eu aussi beaucoup de critiques qui ont été émises sur la manière dont on loue parfois certains bâtiments. Voilà, est-ce que cette perte d'influence, elle s'explique aussi par un redressement budgétaire, un resserrement budgétaire, ou c'est pas la question du tout ?
Non, mais ça joue, évidemment. Ça, je pense que Manuel pourrait en témoigner directement. C'est un élément qui s'observe également dans le domaine militaire. C'est-à-dire qu'il y a une surutilisation de l'outil militaire par rapport à son potentiel financier actuel, avec tout un débat sur la fin de l'érosion des crédits militaires et une tendance haussière avec le contexte de guerre qu'on évoquait. Donc sans moyens et sans un minimum de pérennité, c'est évident que vous ne pouvez pas avoir une influence continue.
Manuel Lafont-Apnaud, vous qui avez été diplomate, en quelques secondes, vous connaissez bien le milieu.
Ce que disait Thomas sur le 1% de notre budget consacré aux affaires étrangères est vrai. Juste pour être encore plus concret, 1%, ça veut dire à peu près la moitié du budget de la ville de Paris. Donc voilà, le budget du Quai d'Orsay, c'est un tout petit peu plus que la moitié du budget de la ville de Paris. Ça donne un ordre de grandeur peut-être un peu plus tangible. Et là-dedans, il faut compter l'essentiel de l'aide que la France donne aux organisations internationales, etc. À la fin, ça laisse beaucoup, beaucoup peu, pardon.
Peu de moyens, peu de choses.
Exactement.
Merci beaucoup, merci à vous deux. Donc Manuel Lafont-Rapnouille, actuel directeur du bureau de Paris de European Council of Foreign Relations. Je vais y arriver. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Merci également à Florence Ponce et à Valentin Vanner. On se retrouve demain pour un nouveau débat.